Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse, formule collégiale de nouveau cette semaine avec à mes côtés Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Laurent Dominati, bonjour.
Bonjour.
Homme de médias, je rappelle que vous avez créé, que vous présidez le site d'information destiné aux Français de l'étranger, lesfrançais.presse. Également parmi nous pour cette émission consacrée à l'actualité insulaire, François Casasoprane, fondateur du mouvement ECHO, parce qu'on a besoin d'une bonne dose d'optimisme en ce moment, je rappelle ECHO, pour encore se restons optimistes. Bonjour François Casasoprane.
Bonjour.
Alors messieurs, je vous propose d'entamer l'émission parce qu'il semble être l'alpha et l'oméga du devenir de la Corse pour la majorité territoriale et plus largement pour le mouvement nationaliste, j'ai nommé l'autonomie, roulant de tambour. Avant de parler des discussions avec le gouvernement étonnamment reportées après les élections législatives, peut-être pourrions-nous revenir sur la visite cette semaine du président du gouvernement basque Iñigo Urkullu, pardonnez la prononciation hasardeuse, présent donc dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum de coopération signé en avril 2021 entre la collectivité de Corse et le Pays basque espagnol. Alors pour résumer, le président a très bien expliqué que sans le levier financier et plus précisément fiscal et sans l'appui européen, l'autonomie s'était pas gagnée. Première réaction, Michel Barra.
Bah écoutez, on trouve un homme politique qu'on partage ou pas ses opinions qui est très raisonnable. Il vient de dire un fait. Sans des moyens, parce que être autonome, sans avoir les moyens d'y être, c'est un vrai problème. On va faire une comparaison. Le rôle des parents, c'est de rendre les enfants autonomes. C'est-à-dire qu'ils aient les moyens d'avoir une possibilité économique de ne plus dépendre des parents. C'est ce qu'a dit le président du gouvernement basque du côté espagnol. Donc, espérons qu'il sera entendu.
Laurent Dominati.
Ben oui, il y a de grandes différences quand même entre le pays basque espagnol et
on va y revenir sur quelques éléments objectifs.
Objectivement, il y a de grandes différences. C'est une province très riche par rapport à l'Espagne et même par rapport à l'Europe, ce qui n'est pas le cas de la Corse.
Il y a 2 millions d'habitants.
Plus de 2 millions d'habitants. C'est un PNB très évolué. C'est une région industrielle, historiquement riche culturellement peut-être, mais surtout économiquement et financièrement. Et cela fait d'ailleurs que dans le statut d'autonomie du Pays basque, il y a effectivement une totale autonomie fiscale. Ça veut dire que les recettes fiscales du Pays basque vont au gouvernement autonome. À ceci près que le gouvernement autonome verse un pourcentage à la capitale qui est de l'ordre, je crois, de 6 ou 7%. Si on appliquait cela à la Corse, on serait immédiatement ruiné parce que c'est plutôt l'inverse. Donc je ne sais pas très bien en quoi le Pays basque pourrait être un modèle dans l'autonomie corse. Si je devais chercher un modèle, je prendrais plutôt le modèle un petit peu, tout n'est pas reproductible, mais de la Sicile, qui là encore est une province très riche, très peuplée, etc., mais qui, elle, est considérée comme étant pauvre par rapport aux autres régions italiennes, garde également les recettes fiscales, mais profite d'une clé de répartition versée par les autres régions italiennes. Et donc, vous voyez que c'est un système différent. Pour la Corse, je préférerais, parce que si on fait le rapport entre ce que rapporte fiscalement la Corse et ce que l'ensemble de l'État et des autres régions et du continent lui donne, eh bien, il vaut mieux être du côté de la Sicile. Ça veut dire que la Corse garde ses recettes fiscales, soit, mais qu'elle bénéficie d'une soulte. Et c'est cette soulte qui va bien falloir évoluer, parce que je vous rappelle aussi qu'en ce qui concerne le Pays basque, ils ont effectivement l'éducation, la culture, les transports, etc. Ça veut dire que c'est eux qui payent. C'est eux qui payent les fonctionnaires. C'est eux qui payent la santé, par exemple. C'est un petit problème important.
La protection sociale.
La protection sociale. Donc, ce sont des questions qui ne sont pas des questions minces. Et donc, on ne peut pas simplement dire on va prendre modèle sur le Pays basque, parce que ça, ce n'est pas raisonnable. D'ailleurs, en gros, c'est ce qu'a dit très gentiment le président du gouvernement. Et d'ailleurs, vous avez remarqué la réponse d'un certain nombre de nationalistes, indépendantistes, qui a accusé le gouvernement autonome et son parti d'avoir choisi l'assujettissement
à Madrid. Tout à fait.
Bon, alors là, on entre. Bon, voilà.
C'est sur la question des prisonniers, me semble-t-il. Entre autres.
Mais en disant, vous avez accepté la suggestion à Madrid, qui est quand même. Je comprends pas très bien la logique.
C'est quand même leur histoire. Hein.
totalement indépendantiste. Si on veut une séparation, oui. Mais à ce moment-là, il faut dire vraiment ce qu'on veut. Enfin, clairement. Remarquez, je crois que Coréphonte dit vraiment ce qu'il veut. De ce point de vue-là, on ne peut pas le reprocher.
Tout à fait. François Casasoprane.
Moi, je pense déjà, c'est une bonne chose que la collectivité de Corse ait des relations internationales, on va dire, ou transnationales, voilà, plutôt. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, parce que lorsqu'on a autant de compétences, autant de pouvoirs, autant d'appétit pour de nouveaux pouvoirs et de nouvelles compétences, c'est assez bien d'avoir des relations, de regarder ce qui fonctionne ailleurs, de s'en inspirer, pourquoi pas, d'avoir un regard critique aussi, puis de porter des projets. C'est quand même ça qui est important. La coopération décentralisée, c'est quelque chose aujourd'hui d'assez fort pour des collectivités qui ont un vrai rôle. Je pense que c'est bien que la collectivité revienne sur ce terrain. Effectivement, on pourrait penser que c'est plutôt du côté de la Méditerranée qui a à la fois une source d'inspiration, je reprends ce qui a été dit, à mon compte, mais aussi peut-être un rôle à jouer, un rôle à tenir peut-être aussi pour la Corse. C'est déjà peut-être une première chose. Deux petits motifs d'inquiétude quand même me concernant. Moi, je suis toujours méfiant de nature, même si j'essaie de rester optimiste. Quand on parle d'autonomie, qu'on veut tout de suite venir sur la fiscalité. Je ne souhaite pas que ça soit le cheval de Troie d'une espèce de laisser-passer, laisser-faire un petit peu généralisé. Deuxième petit motif d'inquiétude, on veut toujours mêler l'Europe à tout. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va être dans un dialogue entre le gouvernement, qui a quand même fait des annonces, la collectivité de Corse, qui semble vouloir avancer de bonne foi sur ce sujet, et pas besoin toujours d'aller chercher à enjamber un niveau pour aller chercher du côté européen.
On va revenir sur le mythe de l'Europe des régions, mais avant ça,
oui,
Michel Barra.
Je crois que François a tout à fait raison d'insister sur la notion de coopération décentralisée. Il m'est arrivé dans ma vie de travailler dans un département qui a fait beaucoup de coopération décentralisée. Les moyens financiers n'étaient pas les mêmes, puisque ce département s'appelle les Hauts-de-Seine. Ce n'est pas comparable. C'est-à-dire là, si on veut faire de la coopération décentralisée, bon, en revanche, quand François dit, y compris pour la nation française, utiliser la Corse par sa situation géographique, historique, etc., par rapport au reste de la Méditerranée, y compris d'ailleurs sur l'autre rive de la Méditerranée, ça serait plutôt intelligent. Ça serait au bénéfice des deux. Maintenant, la fiscalité, oui. Attendez, pourquoi faire ? Si on donne de la fiscalité, l'autonomie, ça va impliquer d'abord, je pense que leur question, c'est bien celle de la fiscalité. S'agit-il de mettre un système à la manière de Malte ? C'est-à-dire de transformer la Corse en une vaste zone franche où le décideur ne sera plus l'élu politique, mais ceux qui bénéficient de la zone franche. C'est-à-dire un lieu de banditisme, mettons les points sur les i. C'est pour ça qu'il faut avoir à la fois de l'optimisme, mais de la vigilance.
Le président du gouvernement basque a insisté sur la nécessité de construire une Europe des régions. Laurent Dominati, vous étiez ambassadeur auprès de l'Union européenne. L'Europe des régions est-elle toujours d'actualité ?
Non.
Tout ça, ce sont des formules. Je présentais votre réponse.
Non, ce sont des formules. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas. Vous l'avez vu d'ailleurs lorsqu'il y a eu ces événements en Catalogne. Et que le gouvernement autonome Catalogne a voulu faire un référendum qu'il a fait d'ailleurs sur l'indépendance, les heurts, les violences, les poursuites qui ont eu. L'Europe, c'est une constitution entre États. Ce sont les États qui décident. Et je dirais même que si on n'est pas aidé par son propre État, comme malheureusement d'ailleurs, on a pu donner le sentiment avec la Corse. C'est-à-dire que la Corse est à ce point isolée de ses représentants à Bruxelles et à Strasbourg que quand on a vu par exemple la petite affaire de scandale là, où on a perdu la bolle du Conseil de l'Europe. Moi, j'étais ambassadeur au Conseil de l'Europe. Je peux vous dire que si un ambassadeur essaie de ce dossier, on ne perd pas le label. Mais évidemment, personne ne l'a saisi, personne ne lui a parlé, parce qu'on est, trop bon, on est trop sain. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Non, si on veut faire avancer des dossiers à Bruxelles, il faut avoir le soutien du gouvernement français. Et j'ajoute que le gouvernement français est là pour ça. Mais si, effectivement, on ne le demande pas, il y a peu de chances qu'on l'ait parce que les services de l'État à Bruxelles et à Strasbourg, ben, ils sont effectivement sollicités d'abord par les ministres, surtout par les ministres, encore par les ministres et de temps en temps par les collectivités locales. L'Europe des régions, c'est fait pour amuser un peu, pour avoir ceci et cela, mais en aucun cas l'Europe ne sera celle des régions. Ça n'est pas possible. Voilà.
François Casasoprane.
Oui, il faut vraiment sortir de ces formules où on se fait plaisir, où on affiche un slogan. L'Europe, ça a été dit, c'est un traité entre États. Voilà. Et si demain, la Corse souhaite être une adhérente de l'Union européenne, mais il faudra qu'elle soit indépendante, il faudra qu'elle adhère, et il faudra qu'elle passe aussi un certain nombre d'épreuves pour reprendre ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Par contre, et là, les discussions sur le statut de l'autonomie, elles peuvent aussi faire avancer un certain nombre de choses. Comment la Corse, avec ses compétences, peut participer au mode de décision au sein de l'Union européenne? Comment elle peut être associée aux travaux du Conseil? Un exemple très précis, on a une question quand même éminemment politique, éminemment sensible et assez inextricable au cours des dernières décennies, c'est celle du transport maritime.
Bravo, absolument.
Comment on fait pour être associé demain, la Corse, au processus de décision? Quand on va chercher des exemples, il y a des îles en Méditerranée qui participent au Conseil, c'est-à-dire qui sont à côté de l'État, de leur État, de leur gouvernement, pour prendre part aux discussions techniques, aussi politiques, entre ministres de la mer, entre ministres des collectivités locales, entre ministres des Affaires européennes. Ça, c'est un vrai enjeu aussi de l'autonomie.
Alors, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui?
D'abord, il n'y a pas d'habitude en France pour ça. Je pense qu'il y a peut-être aussi un manque d'innovation. On va parler d'autonomie, on peut en parler de cela. On peut parler aussi d'espèces d'évaluation chaque fois qu'il y a un projet de loi. On peut évaluer, demander aux parlementaires d'avoir une mission, de travailler, de dire là, il y a des directives qui vont impacter les positions de la collectivité de Corse, il y a des règlements, comment on associe, comment on fait à la fois un retour un peu en arrière, mais aussi de la prospective pour l'avenir. Et je pense que ça, c'est un champ d'innovation assez fort pour les discussions sur l'autonomie.
Michel Barra.
Oui, alors, première remarque sur votre dernière question, pourquoi on en est là. C'est vrai que nous avons des habitudes... Moi, je ne suis pas anti-jacobin, mais de centralisation extrême qui ont fait qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça en France. Tout simplement, ce n'est pas à peine d'aller voir. Et en plus, vis-à-vis de l'Europe, je ne suis pas certain que les pratiques que nous avons eues en Corse ont encouragé les différents contrôles européens à faire confiance à l'administration corse. Donc c'est des deux côtés qu'il faut voir les choses et qu'il faut les ramener. Alors, l'Europe des régions... C'était un slogan quand l'Europe n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. C'est avant Maastricht qu'il y avait un conseil des régions, etc. Comme le dit Laurent, c'est du passé, c'est de l'ordre de l'illusion. Et puis alors, les slogans qui ont été manipulés ici par un certain nombre de pensées que la Corse pourrait être européenne sans être française, oui. Alors pour l'Ukraine, on dit dans 20 à 30 ans, c'est ce que dit le président de la République française, dans 50, 100 ans, si la Corse n'était plus au sein de la République française. Mais parce qu'il faut l'unanimité des adhérents à l'Union européenne pour qu'un pays... Et puis, répondre à certains critères économiques dans lesquels nous sommes très, très loin. Donc, n'entrons pas encore dans des discours d'illusion. Dans des discours de transformation, d'avenir, d'optimisme, oui. Vendre du rêve, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a dit sur la politique de vendre plus de rêve, c'est grave. Vendre des espérances, oui. Du rêve, moi, je me méfie, car c'est souvent de l'illusion. Et le rêve devient très rapidement un cauchemar.
On peut... Oui.
Juste un mot sur ces questions européennes. Ce qui était dit sur le transport maritime est presque cruel.
Bien sûr.
C'est tout à fait exact, et je crois que c'est au moins une double responsabilité. Celle de l'État, qui a très mal défendu ou qui n'a pas voulu voir ou qui a même plus que mal défendu, qui a même un peu trompé. Hein, voilà. Et celle des dirigeants de la Corse, pas actuelle d'ailleurs, parce que ce n'était pas de leur responsabilité, ce n'était pas ceux-là qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Mais cela montre bien qu'il faut que les régions, que ce soit la Corse ou une autre, et mais notamment la Corse sur ce dossier-là, qui est un dossier européen, en très grande partie... aillent ensemble plaider la même cause. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, les fonds de la transition énergétique. On a besoin, en Corse, d'une vraie transition énergétique. On prétend être autonome dans quelques années. On est très, très loin du compte. On ne pourrait l'être que s'il y avait une participation importante des fonds européens, et pour aller chercher ces fonds-là et plaider cette cause-là et plaider des causes innovantes et des projets innovants, il faut évidemment le soutien du gouvernement et de l'État. Si vous allez tout seul à Bruxelles, je connais un peu, il y a beaucoup de régions en Europe, hein, il y en a qui sont beaucoup plus pauvres que la Corse et qui se battent beaucoup avec beaucoup plus d'acharnement. Donc il faut qu'il y ait une conjonction et pas une rivalité ou un face-à-face. Et c'est ce que j'espère pour faire effectivement de la Corse une sorte de modèle de développement économique, écologique, et un peu novateur, mais pas dans la face-à-face avec l'État. C'est pour ça que je suis pour ces discussions et pour qu'il y ait une entente. Il faut sortir effectivement des illusions et des rêves. Il faut dire on va développer la Corse et on va le faire avec l'ensemble de toutes les bonnes volontés, y compris celle de l'État. Ou alors ça ne marchera pas, je puis en être assuré.
C'est aussi à ce prix-là, de l'innovation, du pragmatisme aussi, hein, effectivement, arrêtons de vendre du rêve ou de nous cacher derrière des slogans, que le débat sur l'autonomie en Corse va être aussi utile sur l'architecture des pouvoirs en France. C'est à ce prix-là. Parce que pour le coup, on a souvent été un peu innovants en matière institutionnelle. La première assemblée régionale élue, elle est en Corse, ça s'est généralisé. Ben, peut-être qu'on peut aussi ouvrir des voies à titre d'expérimentation, puis à titre aussi politique. Hein, c'est-à-dire que ça représente aussi une réalité. Nous sommes une île au cœur de la Méditerranée. Nous sommes une île avec une administration propre, une représentation politique propre, des pouvoirs, des compétences assez larges, un peu en deçà quand même des autres îles, mais quand même assez larges quand on compare aux autres régions françaises, eh bien, soyons capables d'innover, de porter des voix, et pas toujours soit du face-à-face, soit la volonté d'enjamber un acteur ou de l'instrumentaliser un petit peu.
Michel Barra.
Mais hors Outre-mer, en région métropolitaine, c'est la Corse qui a le plus d'autonomie. C'est indiscutable. Maintenant, derrière tout ça, il faudrait cesser d'être sur un discours institutionnel, constitutionnel, de rêver d'une modification des articles 72, 73, 74, et pourquoi pas 75, c'est le droit coutumier, hein, 75. Bon. Sur un cas, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si on veut modifier la Constitution pour donner plus d'autonomie à la Corse, c'est d'abord parce qu'il y aura eu des progrès pragmatiques de fait. On prend le problème totalement à l'envers. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Et c'est cela qui amènera ensuite des changements institutionnels. Ce n'est pas le changement institutionnel qui amènera des changements pour la vie des Corses et pour la vie même de la Corse, voire de la nation. On prend le problème totalement à l'envers.
Alors moi, je vous ai bien entendu, mais j'ai remarqué aussi une chose. Les groupes d'opposition n'ont pas assisté à la prise de parole du président basque. La question de l'autonomie est laissée purement et simplement à la majorité. C'est une erreur stratégique, politique, Michel Barra.
Non, bah c'est pire. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas national. Mais il y a quel type de problème? Je dis que cette absence est de l'ordre de la bêtise. Il faut appeler les choses par leur nom. D'ailleurs, ils auraient été instruits de ce qu'a dit le président du gouvernement basque espagnol. Premièrement, plus il discourtois. On ne gagne rien à être discourtois. Bon. Et puis, ils auraient pu dire, devant le président du gouvernement basque, que la situation corse et la situation basque ne peuvent pas se comparer. Et ils auraient fait leur travail en le disant. Mais là, de ne pas y être, ça n'a pas de sens.
François
D'ailleurs,
Cazé
le gouvernement français discutera avec le gouvernement basque, tout en respectant le gouvernement espagnol.
Gardez-en un petit peu pour plus tard, parce qu'ils ont fait pire. Alors, François Cazé-Sofrane.
C'est une grave erreur pour trois raisons. La première, effectivement, la politique de la chaise vide, elle ne mène jamais à rien. Donc, quel que soit le thème, d'ailleurs, hein, que ce soit l'autonomie ou un autre. Deuxième raison, c'est que c'est le rôle aussi d'une opposition, d'être là, d'écouter, de participer. Les gens qui les ont choisis pour être représentants, ils attendent aussi que sur ces débats, sur le débat de l'autonomie, il y ait une prise de parole de l'opposition. La troisième raison, c'est que, on l'évoquait il y a quelques temps, d'ailleurs sur ces antennes, c'est que les discussions sur l'autonomie, les discussions sur les statuts, elles ont toujours eu lieu entre le gouvernement et l'Assemblée de Corse. Pas entre le gouvernement et l'exécutif simplement, mais entre le gouvernement et l'Assemblée de Corse. Pourquoi ? Pour qu'il y ait des compromis, voire un consensus. Pour qu'il y ait vraiment un pas politique qui soit fait. Et ça, ça nécessite que tout le monde participe au débat. Et c'est quand même une rupture assez forte. Hein. La matrice des changements institutionnels, ça a toujours été l'Assemblée de Corse. Moi, je pense que c'est aussi un gage d'équilibre au sein de la société, de respect de la pluralité. et un gage aussi de respect de la démocratie.
Et de même, l'opposition n'était pas présente lors de la conférence sociale qui s'est tenue la semaine dernière à Bastia. L'objectif était de réunir les représentants institutionnels, syndicaux et sociaux sur la nécessité d'intégrer la question économique et sociale dans le processus de négociation entre la Corse et l'État. Une réaction, Laurent Dominati.
Bah écoutez, pour avoir une réaction, il faudrait que je sache exactement ce qu'a dit l'opposition et les raisons qu'elle a avancées. Donc moi, je me garde bien de juger sans connaître, sans entendre les différentes parties. Comme je ne le sais pas, je ne peux pas dire. Je suppose que l'opposition sont des gens responsables et que s'ils n'ont pas voulu assister, c'est qu'ils ont...
Ils avaient forcément de bonnes raisons. Michel Barra, quand même, sur le social.
Oui, mais sur le social, j'aurais tendance à faire les mêmes remarques que celles que j'ai faites tout à l'heure, qui sont très voisines de celles de François Gazasopran. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un changement. J'entends une collectivité corse, un exécutif corse, vous avez raison, qui critique la verticalité du système français, voire hérité de la cinquième, empiré par le quinquennat. Mais oh, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils font, eux, un système qui est encore pire. C'est-à-dire que nous avons un exécutif vertical qui est un jacobinisme local. Alors c'est ça ma méfiance. Donc l'Assemblée Corse est le lieu où les choses doivent être faites et l'interlocuteur doit être l'Assemblée Corse.
Vous avez entendu, merci Michel, on va vous laisser répondre au téléphone.
Je croyais l'avoir bien fini, mais j'ai une...
François Casas, enfin, la question sociale doit vous interpeller. Évidemment, la gauche, une gauche manque dans l'hémicycle.
Oui, alors la gauche manque dans l'hémicycle. La question sociale, la question sociale manque dans l'hémicycle. Et je dois dire quand même, sans verser dans la nostalgie, mais c'était quand même quelque chose qui était incarné par les conseils généraux, puis conseils départementaux, et qui fonctionnait. Les orientations pouvaient être critiquées, débattues, ok. Mais ça fonctionnait. On savait que la compétence sociale était exercée. Aujourd'hui, on s'inquiète un petit peu. On a, sur toutes ces questions, beaucoup de trous dans la raquette, beaucoup de manque de position. Je pense aussi beaucoup de manque d'innovation. On parlait tout à l'heure, si on veut de nouvelles compétences, il faut montrer aussi qu'on s'intéresse aux plus faibles. L'autonomie, elle est là aussi pour ne pas laisser de gens sur le bord de la route. Sinon, si c'est pour continuer comme avant, le débat institutionnel n'intéresse pas grand monde.
Laurent Dominati.
Non, mais encore une fois, on parle de l'absence d'opposition, mais... Je suppose qu'ils ont expliqué pourquoi. Peut-être qu'ils considèrent que tout ça, c'est juste de l'esbrouf. Je n'en sais rien. Donc,
il n'y a pas eu de communiqué.
Bon, bah bon,
jusqu'à présent.
Peut-être voilà. Qu'ils ont considéré.
Ça viendra peut-être.
Des éléments de campagne électorale. Moi, encore une fois, je suppose qu'ils sont sages et qu'ils savent à peu près ce qu'ils ont fait. Je n'imagine aucun parti, dans l'île ni ailleurs, qui n'ait pas de préoccupation sociale ou en ce qui concerne ou économique ou en ce qui concerne l'autonomie, qu'il n'ait pas d'idée. D'ailleurs, les représentants de l'opposition ont chacun dit quelque chose dans les semaines passées à propos de ces questions-là institutionnelles. Peut-être que pour telle et telle raison, de je ne sais,
ils ont on va creuser la question.
À des agitations qui leur paraissent sans suite. C'est tout à fait autre chose.
Michel Barra.
Je trouve Laurent d'un grand optimisme. Parce que je ne suis pas sûr que l'opposition ait une seule idée sur l'autonomie, pas plus d'ailleurs que la majorité. Parce qu'il y a une sorte de mot tabou qui est utilisé, l'autonomie. On est incapable, y compris du côté de la majorité de l'Assemblée, d'en sortir un contenu. Ils vont vous dire pleine et entière et de plein exercice. Alors, entière et pleine exercice, ça signifie qu'il n'y a que frapper monnaie, déclarer la guerre et rendre justice qui sont absents de l'autonomie. Tout le reste, c'est-à-dire le régalien. Je ne vois pas à qui la Corse va déclarer la guerre. Bon, à Monaco, peut-être. J'en sais
rien. À la mafia, peut-être, non ?
Ah, ça, ce serait une bonne idée, peut-être.
Donc, le type de problème, la pâleur de l'opposition, appelons les choses par leur nom. C'est la pâleur du système politique corse en son ensemble. Avons-nous encore en Corse de vrais hommes politiques qui disent quelque chose ? Il y en a, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est un autre sujet, ça. Mais y a-t-il un débat politique en Corse ? La réponse est non. Je crois que François n'a pas tort, parce qu'il n'y a plus d'Assemblée. Il n'y a plus qu'un exécutif.
Alors, tous ces échanges sont censés peser sur les discussions entre la collectivité de Corse et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur un éventuel nouveau statut de l'île. Petit problème, le calendrier politique et électoral bloque les institutions, et la Corse, alors, n'est pas la seule concernée, évidemment. Tout est reporté au mois de juin, après les élections législatives. On touche là aux limites de l'exercice du pouvoir démocratique avec une Assemblée nationale en suspens durant près de 2 mois après l'élection du président de la République, François Casasoprano.
Ouais, c'est pas les limites, c'est le jeu démocratique, tout simplement. Après, on va pas imaginer quand même que les discussions sur l'autonomie vont arriver et qu'en 3 semaines, on va accoucher d'un statut. Alors pour le coup, oui, on escamoterait tous les débats. Donc, perdre, entre guillemets, parce que c'est pas perdu, 1 mois pour laisser aussi une Assemblée nationale être élue, l'Assemblée nationale qui aura elle-même à se prononcer sur les réformes, ça me semble quand même pas si grave que ça, et au contraire, peut-être un gage aussi d'une démocratie. Il peut y avoir des surprises dans cette élection, ou pas, ou des confirmations, et bien on verra. En tout cas, les gens qui seront élus auront un mandat pour décider, donc ça me semble pas appeler de commentaires à outre mesure. Peut-être sauf ceux qui ont cru que le 18 mai, on allait avoir une grande réunion et que tout serait réglé le 18 mai. Peut-être que ceux qui l'ont cru ou qui ont voulu y croire, eux peuvent peut-être subir quelques désillusions.
Laurent Dominati.
Non, oui, ben, je trouve ça tout à fait normal. Le ministre de l'Intérieur est venu pour expliquer qu'il n'y avait pas de tabou en matière d'autonomie. Il l'a dit, il est maintenu à son poste, c'est plutôt un gage de sérieux et de continuité. Il reste en charge du dossier Corse, bah très bien. Et puis on verra ensuite si le peuple français confirme cette majorité-là, parce qu'après tout, peut-être que si une autre majorité sera plus ministre. Donc c'est à peu près logique d'attendre les élections, le prochain gouvernement, puisque celui-là est peut-être un gouvernement un peu de transition. En tout cas, il y en aura un autre après les élections législatives. Et c'est celui-là qui sera en charge de mener les discussions, et ce sera sans doute, s'il y a une majorité qui est la même, qui conforme le choix présidentiel, le même ministre. Voilà, je vois pas de ce qu'on a. Ce que je trouve, en revanche, c'est que pendant tout ce temps-là, où on dit « ah oui, mais on retarde, etc. », ça fait un petit peu à la question précédente, et c'est peut-être ce qui explique certaines absences. Eh bien, peut-être que entre les différentes forces politiques corses, il était temps, il était utile d'organiser un débat interne, voire même secret, je ne sais pas, ou... pas clandestin, mais enfin discret plutôt, entre ces différentes forces politiques pour que les interlocuteurs qui, du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, puissent arriver en disant ben voilà une position à peu près consensuelle, voilà ce que les forces politiques, celles de l'opposition, celles des indépendantistes et les miennes, puisqu'il s'agit pour essentiellement du parti qui a la majorité absolue à l'Assemblée de Corse, voilà, nous on a profité de ce temps-là pour mettre sur la table un certain nombre de propositions, et voilà ce que j'arrive. Vous voyez, peut-être qu'on ne sait pas tout, peut-être que c'est cela qui est reproché, parce que ce serait plus fort si on arrivait, non pas avec l'ensemble de la famille nationaliste, puisqu'elle est un peu divisée, et certains candidats se le reprochent réciproquement, mais avec toutes les forces politiques de l'île en disant, ben voilà, nous on a travaillé pendant que vous faisiez vos élections, pendant qu'il y avait un débat,
et on arrive,
on a ça. Alors il y a évidemment des nuances et des discussions. Bon, enfin voilà, ça peut être...
D'accord, vous êtes vraiment optimiste.
Non, au contraire, je ne suis pas optimiste. Si je dis cela, c'est parce que j'ai un petit peu le sentiment que ça n'ait pas eu lieu.
Je pense que Laurent est un petit peu ironique. Attendez, c'est pas parce que la réunion avec le ministre de l'Intérieur n'a pas lieu que le processus est arrêté, puisque cette réunion va avoir lieu et que les calendriers électoraux de l'ensemble de la nation sont ce qu'ils sont, et on ne peut pas passer par-dessus, ça n'empêchait absolument pas en Corse de préparer cette réunion. Que ce soit un discussion avec l'opposition, ou même une discussion au sein même de ceux qui font majorité, ils vont y aller pour dire quoi ? C'est ça la question qui est là, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les critiques qu'on faisait sur l'opposition me semblent justes, mais elles sont les mêmes qu'on peut faire par rapport à la majorité en Corse. Où y a-t-il aujourd'hui en Corse un débat, même républicain, je ne veux même pas dire démocratique, il n'y a plus de débat.
Il y a vraiment
c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir.
François Casasoprane.
Ben, je pense qu'il y a, un souci sur l'espace public corse. Vraiment, dans toutes ses composantes. Le champ politique, ben, on n'échappe pas non plus à la crise des partis, à la crise des rivalités. On n'échappe pas au phénomène de mode où maintenant il faut davantage faire le buzz qu'avoir un projet construit. On n'échappe pas peut-être aussi à une crise des médias, moins lu, moins vu. On est un peu plus dans l'instantanéité. C'est d'autant plus préjudiciable qu'on est justement plutôt à une petite échelle, à une échelle d'agora qui pourrait être animée facilement. Donc c'est peut-être encore plus dommageable.
Et vous ne pensez pas que le calendrier électoral, qui ne s'arrête jamais, est en partie responsable de ça, de ce message qui se perd ou qui
se... Il va s'arrêter là, parce que...
Ah mais non, mais...
Encore, on va rester assez longtemps sans élection, quand même.
Oui, on est sûr de ça.
Le retard des discussions est lié à deux choses. Au premier départ, cette idée que lance... sur sans doute l'incitation du président de la République, le ministre de l'Intérieur, il part à partir de l'affaire Colonna et de l'assassinat d'Ivan Colonna dans une prison française. Point. Après, les réactions qui ont eu en Corse, on fait dire au ministre de l'Intérieur, moi je ne vais pas dans ces conditions discuter. Premier retard. Ce n'est pas les législatives qui ont retardé d'abord les discussions. Alors on peut donner raison... à ce que pensait la collectivité. Moi, je ne donne pas raison, mais je peux comprendre que certains leur donnent raison. Mais ce n'est pas là le retard. Le retard des législatives, il était prévisible. Et même si les choses avaient commencé, pendant le débat législatif, on l'aurait suspendu. Donc il faut arrêter de se trouver de mauvaises excuses, d'un côté et de l'autre. Je dis bien des deux côtés.
Parce que le premier retard... C'est plutôt un rendez-vous manqué.
Oui.
C'est plutôt 2017,
ouais, oui,
2018.
Oui, bien sûr.
C'est plutôt ça, le rendez-vous manqué, où on aurait pu avoir quelque chose d'assez calme, avec du temps, se donner le temps et donc avoir un débat. On rentre un petit peu aussi de façon précipitée, avec chacun des revirements, chacun des incertitudes. C'est beaucoup plus difficile. Ça rajoute aussi à cette crise de l'espace public, avec des messages parfois contradictoires, des changements de cap assez marrants, des changements de camp aussi parfois. Ça arrive aussi dans la vie publique, pas que sur le continent, ça arrive aussi beaucoup ici. Tout ça fait qu'il y a une petite crise quand même de l'espace public et
Laurent,
du temps.
Laurent Dominati, sur ce point.
Mais il y a aussi, alors je disais qu'ils auraient pu se mettre d'accord, toutes les forces politiques de l'île, justement, profiter de ce petit délai. Bon, je le disais de façon ironique, puisque ça n'a pas été fait. Mais j'ai quand même deux interrogations. La première, c'est qu'il y a beaucoup de candidats aux législatives dans l'île. Sans doute, c'est ce mon ignorance, mais je n'en ai pas vu vraiment un qui décrivait particulièrement le futur projet de loi qu'il allait déposer à l'Assemblée nationale. Soit de réforme constitutionnelle, soit de loi organique. Par exemple, le travail qu'avait fait José Ross il y a quelques années. Je n'ai pas vu un candidat dire à ses futurs électeurs, même un député sortant, je n'en ai vu aucun, dire « voilà, moi, ce que je proposerai ». Alors, ça suppose des amendements, ça suppose un nombre de choses. Mais, enfin, ça aurait été pas mal dans le débat public d'avoir quelqu'un, peut-être pas tous, mais quelqu'un qui dise « ben voilà, je refuserai ça, ça et ça, et je voudrais ça, ça et ça ». C'est un peu étrange, parce que peut-être que le débat interne en Corse a empêché justement ces discussions entre les Corses. J'ajoute, et c'est ma deuxième remarque, que parfois, je me demande si certains autonomistes ou nationalistes veulent de l'autonomie. J'ai eu le sentiment de temps en temps qu'il y avait une surenchère qui visait à empêcher Gilles Siméon, je dis tel que je le pense, d'aller plus loin dans les discussions, ou en tout cas d'établir des liens de confiance qui sont indispensables à une discussion franche, honnête et de bon aloi pour l'avenir, pour les Corses. Et pour la France, évidemment. Et j'ai l'impression qu'on est là pour... si c'est pas avec moi qu'ils vont discuter, alors je préfère qu'ils discutent pas et j'allume le feu par en dessous. Et donc ça, effectivement, c'est pas très sain. Et je mets en garde, tout le monde le fait, en tout cas dans la rue d'Ajaccio, tout le monde est au courant de ça. Et donc je dis, ça c'est pas très sain du tout, parce que ça veut dire qu'on défend une cause et en réalité on la défend pas vraiment. On défend en réalité son petit territoire ou son petit intérêt. Eh bien je pense que cela mérite d'être dit. Et comme on est en campagne électorale et que moi je suis pas candidat du tout et que je ne me garde bien de... de m'immiscer dans ces débats-là. Je m'immisce au moins dans le débat public pour dire attention, parce qu'il faut être honnête quand on fait de la politique, il faut être intellectuellement honnête. On a le droit de défendre tout ce qu'on veut, mais il faut le faire vraiment avec sincérité, avec honnêteté. Et donc, on ne peut pas dire « Ah, il faut avoir ça », et puis par en dessous, faire des croche-pieds. Ça se voit. Et ceux qui croient que ça ne se voit pas, eh bien, ce sont eux les naïfs.
Michel Barra.
Oui, mais écoutez, il est étonnant que la question de l'autonomie, qui est mise par l'exécutif au devant de la scène, qui, par le silence ou d'une autre manière, est mise aussi au devant de la scène, par l'opposition, on n'entend personne des candidats aux élections législatives d'avoir un début de point de vue dessus. Bon alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ailleurs, on ne va pas élire les gens en Corse sur les questions fondamentales. On va faire le tour des cafés et des mairies pour savoir quels sont les liens familiaux. On va peut-être même dire claniques qui vont me permettre d'être élu. Le reste du fonds d'élection va être passé sous silence. C'est un peu ce que disait Laurent. Maintenant, quand il s'agit de la famille nationaliste, que deviendrait la famille nationaliste s'il y avait un accord avec l'État? Il n'existe que parce que ils ont le bouc émissaire de l'État pour dire que tout est de la faute de l'État. Ici, en Corse, on a quand même cette maladie qui consiste à dire que si quelque chose va mal, c'est de la faute de l'État. Le grand exemple, c'est l'exemple des déchets qui est totalement de compétence locale, mais c'est quand même de la faute de l'État. Bon, donc là-dessus, on va tourner en rond, d'une certaine manière. Après tout, d'avoir un bouc émissaire aussi fort que l'État, c'est la meilleure manière d'être réélu.
Allez, après la politique, la justice, ou peut-être reste-t-on dans la sphère politique avec les affaires Alain Ferrand et Pierre Alessandre. Les deux détenus condamnés à la perpétuité en 2003 pour leur participation à l'assassinat du préfet Erignac se sont vus une nouvelle fois refuser un aménagement de peine avec régime de semi-liberté qui leur permettait de travailler à l'extérieur en journée, de rentrer à la prison de Borgo pour la nuit. Un aménagement accordé en première instance par le tribunal d'application des peines antiterroristes. Le parquet a par la suite fait appel de cette décision et a donc été entendu. La cour d'appel antiterroriste a argué que la libération conditionnelle d'Alain Ferrand, dans le cas d'espèce, était susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. Donc quelque chose qui lui est extérieur, comme le souligne son avocate, maître Françoise Davidot. C'est la deuxième demande rejetée pour Alain Ferrand, la troisième pour Pierre Alessandre. Et je rappelle que les deux hommes ne sont plus sous statut de DPS et ont été transférés le 11 avril dernier à la prison de Borgo depuis la maison centrale de Poissy. Messieurs, peut-on encore affirmer que le politique est étranger à l'affaire? François Casasoprane, vous ouvrez le bal.
Je ne connais pas l'ensemble du dossier et j'ai plutôt pour habitude de ne pas commenter les décisions de justice. Mais là, il y a quand même plusieurs points d'interrogation quand même, de l'appel fait par le parquet, de la motivation qui est un peu passe-partout maintenant. Hein, quand on n'a pas envie de motiver, maintenant on dit ça crée un trouble et voilà. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Voilà, je le dis maintenant sans avoir accès à tout le dossier. Et donc, j'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre.
Laurent Dominati, sur ce point.
Oui, effectivement, c'est difficile d'avoir un avis objectif quand on n'a quand même pas le dossier. On n'est pas juge, on n'est pas avocat, donc c'est très difficile de l'extérieur. Moi, je veux dire des choses qui ne vont sans doute pas plaire à l'immense majorité de mes compatriotes. Je ne pense pas que les prisonniers en question soient des prisonniers politiques. Je l'ai déjà dit à cette radio, un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est mis en prison pour son opinion, pas pour les actes qu'il a commis, notamment pas un assassinat. Prisonniers politiques, il y en a en Turquie, il y en a au Maroc, il y en a en Russie, il y en a beaucoup. En France, il n'y en a pas. C'est pas parce que vous avez tué quelqu'un, parce qu'un Iranien va tuer quelqu'un pour dénoncer ceci dans son régime, qu'il est prisonnier politique. Peut-être que son geste pour lui était politique, mais enfin, le résultat, c'est qu'il a tué quelqu'un, il est condamné parce qu'il a tué quelqu'un. Voilà, je prends l'exemple d'un Iranien parce que c'était le cas. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui est corse. Je ne vois pas la différence. En revanche, je trouve que dans la gestion de ces affaires, il y a des maladresses monumentales qui reviennent, y compris de la part de l'État et de la justice, à traiter ces cas comme si effectivement c'était des cas politiques. je dirais que s'ils avaient voulu en faire des prisonniers politiques, ils s'y prenaient pas autrement. Que ce soit pour Colonna, pour Ferrand ou pour Alessandre, je ne comprends pas très bien pourquoi à un moment, c'était le ministre de la Justice qui devait décider. Comme il était l'avocat des nationalistes, il s'est déporté et que la décision est allée jusqu'au Premier ministre. Je trouve que c'est un cas rarissime où les décisions vont jusqu'au Premier ministre. Et personnellement, je trouve que le Premier ministre, il aurait dû simplement suivre l'avis de la commission compétente et non pas la contredire. Il a le droit de la contredire. C'est son droit, donc ce n'est pas illégal, contrairement à ce qu'on a dit. C'est le droit. Donc il a appliqué le droit. Mais c'est une décision surprenante parce que l'habitude, c'est de suivre l'avis de la commission. Oui. Alors là, ce n'est pas le Premier ministre, heureusement, heureusement. Mais c'est le parquet qui fait appel. Pourquoi est-ce qu'il fait appel ? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire appel ? Troubles à l'ordre public ? Bon, on les a vus, les troubles à l'ordre public. C'est ça qu'ils veulent. Je trouve qu'il y a une gestion de ces dossiers qui, pour le coup, n'est pas politique, ou alors elle est absurdement politique, elle est bêtement politique. Voilà. Je ne sais pas, le ministre de la Justice aurait pu dire à son parquet, il me semble qu'il y a encore une autorité, on ne l'a pas supprimée, non, vous ne faites pas appel. Je ne sais pas, moi, c'est parce que, justement, on a vu ce qui s'était passé. Donc, un, ce ne sont pas des prisonniers politiques pour moi, mais deux, c'est vrai que la gestion politique ou à peine politique ou non politique des choses fait qu'on se pose des questions étranges. J'ajoute que je n'ai aucune sympathie pour des assassins en général et ceux d'un préfet en particulier.
Alors, Michel Brun. Je partage tout à fait l'opinion de Laurent. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a des gens qui se trouvent en prison parce que la motivation de leurs actes était pour eux politique, c'est indiscutable. Mais attendez, c'est pas parce que ma motivation... Est-ce que si je tue quelqu'un par jalousie, c'est une motivation, comme une motivation politique ? Il n'en empêche que le résultat est même, je tue quelqu'un. Donc c'est ce qu'il nous dit, Laurent. Donc il faut pas... Il n'y a personne en France, pour l'instant, qui est mis en prison pour avoir dit des choses politiquement. C'est ça, un prisonnier politique. C'est la Turquie, c'est la Russie... Ce sont ces pays-là, et on pourrait en faire la liste qui est beaucoup plus grande que les pays dans lesquels ça n'existe pas. Maintenant, deuxième remarque, effectivement, le garde des Sceaux ne pouvait rien faire, y compris aujourd'hui, de donner une instruction au procureur, parce que la justice lui reproche déjà d'en avoir donné, et veut le traduire devant la Cour de justice de la République pour ça. Non, mais moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement total de la justice, je vais le dire. Je pense qu'en plus, la justice, qui constitutionnellement est une autorité, non pas un pouvoir, veut devenir un pouvoir et qu'elle a déclaré la guerre à l'exécutif. Et qu'à chaque fois qu'elle pourra enquiquiner l'exécutif et le mettre en difficulté, elle le fera. Et là, qui c'est qui est le plus embêté ? Sans doute ceux qui n'ont pas bénéficié d'un aménagement de peine. Mais derrière, c'est le gouvernement français. Comment M. Darmanin va-t-il négocier avec la Corse, avec les positions que prend la Cour d'appel ? Attendez, nous ne pourra pas comprendre. Oui, la justice est indépendante en France. Je suis plutôt sur l'indépendance des verdicts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais comment des gens peuvent-ils être indépendants et en même temps irresponsables ? Parce que le statut des juges, c'est l'irresponsabilité. Ils n'ont pas à assumer la responsabilité des futurs troubles à l'ordre public que le non-aménagement des peines va conduire, alors qu'en termes de droit pur, il n'y avait aucune raison maintenant de ne pas l'accorder, puisque le statut de DSP n'existait plus. Bien pensé ici à ce qui se passe. Moi, je me souviens, quand j'étais en fonction ici, que la justice avait organisé un procès de nationalistes le jour où le président de la République réunissait les ministres du tourisme de toute l'Europe en Corse. Si ce n'était pas pour embêter le pouvoir exécutif, il faut m'expliquer. Bon, finalement, ils ont fait marche arrière 48 heures avant. Attention, nous avons en Corse un problème. Ce n'est pas la police qui a un problème avec la justice. Ce sont les Français qui ont un problème avec leur justice. Voilà ce que j'avais à dire. Je l'ai dit clairement, je crois.
Très clairement, comme toujours, Michel. Allez, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut!